Alors, et ça, Unloved.
De Unloved. Alors, c'est un album qui est sorti il y a un an et demi.
C'est sur ce disque-là, à partir de ce disque-là, vous avez envie de travailler avec eux?
Oui, oui. J'ai entendu un titre à la BBC. Et pendant très longtemps, il n'y a eu qu'un titre qu'on pouvait trouver en streaming. J'arrivais pas à trouver l'album. Et pour cause, parce qu'il n'était pas sorti. Et donc, j'ai acheté un 4 titres. Et donc, déjà, ça laissait supposer que ça allait être un disque énorme. Voilà. Oh. Bon, allez, on recommence. Des fois, c'est difficile de choper le sillon.
Mistakes of medicine, whether mine or happenstance, is it wrong or right?
Qu'est-ce qui vous a parlé dans cette musique?
Tout. Il y a tout ce que j'aime et concentré dans ce disque. Le côté très 60s, assez réverbéré, très mélodique, très, très bien arrangé. Je pensais que c'était un homme qui chantait, en fait c'est Jade Vincent qui a une voix absolument incroyable. Enfin là en tout cas elle chante, elle a une tessiture masculine. Elle chante avec moi sur mon album, un duo qui s'appelle Deep End. Je me suis beaucoup lié avec elle. C'est vraiment quelqu'un que j'ai découvert, qui est une artiste qui vient du jazz, qui est d'une beauté absolument incroyable. Et vraiment, je les aime beaucoup, voilà. J'ai adoré ce disque. Pas très connu, mais je pense que c'est un album qui va rester. Parce qu'il réinvente quelque chose, en fait. C'est un album rétro-futuriste. Mais il reconvoque des choses du passé pour recréer quelque chose de neuf, de complètement neuf. C'est vraiment un album passionnant, c'est vraiment une expérience d'écouter ce disque.
C'est un artiste rare, mais qui, comme tous les grands artistes, qui est aussi un artiste complexe. Et peut-être c'est une vision de lui que tout le monde n'a pas, c'est que c'est d'abord quelqu'un de très affable, très facile dans la relation, très drôle. Et c'est quelqu'un qui aime s'amuser.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Épisode de Dao, fan de pop, fan de Brigitte Fontaine. Pour la rencontrer, Étienne Dao, sans s'annoncer, sonne carrément à son interphone. Quelle audace! La chanteuse ne sait pas comment il a eu son adresse, il l'invite à déjeuner. Plus tard, le chanteur lui demande d'écrire les textes de deux chansons. Jungle Pulse va bientôt débouler. Dao, fan de pop, nouvel épisode pour remonter aux sources de la Daomania.
Je devais écrire...
Brigitte Fontaine.
Un texte... pour lui, pendant que il jouait sur un piano ou quelque chose comme ça. Mais il venait sans arrêt me déranger en suggérant ceci ou cela. Et alors c'était une lutte, mais une lutte amicale. Et la plupart du temps, je gagnais. Mais par exemple, dans, comment ça s'appelle, Jungle Pulse, ouais. Il a voulu mettre, là je l'ai laissé, mais vraiment, non. Collé au plaf, roulant des pelles. Non, pardon. Là il a eu tort. Mais, donc c'est lui qui a gagné, pas moi. Des fois je gagnais. Oh, souvent. Il me laissait quand même tranquille.
Vous lui avez quand même amené un mot incroyable, qui n'est pas un mot qu'on trouve souvent dans la chanson française, qui est nyctalope.
Oui, parce que ça rime avec interlope, peut-être. Eh bien, comme j'aime beaucoup les chats et qu'ils sont nyctalopes, j'aime donc ce mot.
Paris.
Immergé dans la nuit de lave, étoile filant et nue sans entrave. Dans le chaos, se tord, se tire et se déhanche, luisant dans sa tenue élastique. Et je tombe patatras dans la vapeur, super tropicale. Je suis celui qui te boit et qui te dévore, où tu veux, quand tu veux. Ces petits seins pharaoniques, dansant comme des balles de plastique. Trace des 8 des hiéroglyphes sur ma cervelle en ébullition. Et soudain j'entends crier les lions, les noirs jaguars, les gibbons mignons. J'entends claquer l'armée des fouets, tout près dans la forêt.
J'ai séquestré Brigitte à l'hôtel pendant plusieurs jours pour qu'on fasse ce texte. Je l'ai appâté à base de mom, champagne mom. Et c'était un moment génial. Elle était un peu furieuse parce que elle a pas l'habitude qu'on lui indique des choses. Et il y avait des choses que j'avais envie d'écrire. Donc à ce jour, je sais qu'il y a des choses qui l'énervent dans ce texte.
Mais donc c'est une forme d'écriture à quatre mains, c'est ça que vous expliquez?
C'est plutôt Brigitte qui a écrit le texte, elle l'a écrit, et moi j'ai contribué sur des petits détails pour adapter le texte à la rythmique de la musique. Je trouve qu'il est très poétique et surréaliste, et assez sombre, et vraiment décalé.
Quels sont les mots qui sont vraiment des mots de Brigitte Fontaine?
Tout est de Brigitte.
Oui, mais j'entends bien.
Moi, j'ai rajouté coller au plaf, rouler des pelles, un truc comme ça, et deux ou trois choses que j'ai un peu agencées, mais le texte est de Brigitte, vraiment.
Mais est-ce qu'il y a des mots, par exemple, que vous n'auriez jamais écrits, qui ne sont pas dans votre...
Oui, je ne savais pas ce que c'était, nyctalope, par exemple. Je ne connaissais pas ce mot.
Dear darling, I hope you're all right now. And I hope you'll be back soon. On s'appelle. Bisous, bisous. Miaou, miaou. Ta Bri. Il m'appelle Bri.
Après avoir sorti en décembre 81 Mythomane, un album produit par son ami Jacques No, Dao donne 6 mois plus tard son premier concert parisien à l'occasion de la fête de la musique. Dao rentre à Rennes puis décide de se lancer corps et âme dans le métier. Il s'embarque pour Paris avec Arnold Turboust et Franck Darcel. L'album La Note est en train de se profiler. Ça sera son premier gros succès. C'est le début de la Daomania en 84. L'écrivain Hervé Guibert ne s'étonne pas dans la presse. Le 5 juillet, il écrit « Il n'y a pas trop de hasard dans ce succès. Dao est un jeune homme de son temps. » Et il le restera.
La Notée, dans son ensemble, raconte un peu nos années 82-83.
Franck Darcel, producteur de l'album La Notée, La Notée.
Et l'été 83, on fait les démos à Rennes. Et on est une partie de la semaine à Dinard, Saint-Lunaire, sur ce qu'on appelle la côte d'Émeraude ici. Et en fait, une partie des textes d'Étienne, c'est comme un reportage sur cet été 83, c'est-à-dire beaucoup de soirées en boîte de nuit, dans les boîtes de nuit connues du coin, de la Chaumière, des endroits magnifiques. Et quand on rentre à Rennes faire les maquettes, ben, il prolonge les nuits passées sur la côte avec des textes. Il raconte... en fait, pour moi, La Notée, c'est la chronique de l'année 83, tout ce qu'on a vécu, les rencontres, tous ces allers-retours entre Rennes et la fameuse côte d'Émeraude, donc Saint-Lunaire, qui est cité dans l'album, et puis Dinard. Et voilà, c'était pour nous un petit paradis sur Terre.
Je vais encore sortir ce soir. Je le regretterai peut-être. Je vais encore sortir ce soir. Je le regretterai sans doute.
Arnold Turboust, vous vous souvenez de... On va appeler ça comme ça, la conquête de Paris. Enfin, le moment où vous décidez de... Voilà, on y va maintenant, on va essayer de... passer la vitesse supérieure.
Ah oui, je me souviens bien parce qu'en fait, nous sommes partis de Rennes avec Franck Darcel qui était le producteur et qui écrivait aussi des chansons. Et nous sommes partis par un dimanche après-midi de Rennes pour arriver à Paris pour enregistrer cette fois-ci définitivement l'album La Notée. Donc nous sommes partis à 5-6 heures du soir après un bon repas avec plein d'amis. Ça y est, on s'en va, on va habiter à la capitale. Et en fait, nous avions loué pour se faire un camion. Et on a dû faire le plein d'essence et nous nous sommes trompés de carburant. Au lieu de mettre du diesel, on avait mis de l'essence. Et donc nous sommes tombés en panne sur l'autoroute. Et au lieu d'arriver à, je sais pas, à 11h minuit par exemple, on est arrivé à 3-4 heures du matin. Enfin voilà, l'arrivée de provinciaux.
Début 80, vous êtes en colocation avec Arnold Turboust et Franck Darcel.
Oui, Franck n'est pas resté très longtemps, mais je commençais à me rapprocher d'Arnold musicalement déjà. On commençait à travailler ensemble, Arnold avait commencé à me proposer des musiques, donc je suis resté à Paris avec Arnold.
Et donc on arrive dans cet appartement, et puis c'est le début de l'aventure parisienne, c'est-à-dire en fait on rencontre pas mal de personnes, et puis... on organise pas mal de fêtes, en fait, dans cet appartement où on rencontre beaucoup de gens. Et c'est vraiment le début.
On était obligé de rendre l'appartement parce qu'on n'avait pas un rond non plus. Donc, heureusement, toujours, on avait beaucoup de fiancés et ça nous a sauvés, vraiment, de pouvoir avoir des gens qui nous hébergeaient, qui nous nourrissaient, même. Il y avait plein de moments où on n'avait absolument pas d'argent pour manger. Hein. Vraiment, les parents d'Arnold sont traiteurs ou bouchers. Il avait pour mission de partir... une fois par semaine pour amener des trucs à manger à Paris. Et puis on mangeait ça très vite. Puis après, au bout de 3 jours, s'il fallait recommencer, on crevait la dalle, quoi, vraiment.
Tout l'après-midi, à regarder la pluie.
Dao, fan de pop.
S'en est fallu peu pour qu'il en meure d'ennui. S'il avait les sous, s'enfuirait loin d'ici. Dans son nid.
Mais je me souviens pas du tout de cette période comme d'une période particulièrement compliquée.
à cette époque-là, donc au tournant des années 70-80.
Jean-Éric Perrin, écrivain.
Le rock prend un essor assez phénoménal. En 80, donc, il y a l'arrivée de Mitterrand au pouvoir avec dans sa foulée Jack Lang. Et d'un seul coup, le rock, qui était un petit peu honteux, qui était mal vu, qui n'était pas transmis par les gros médias officiels, c'était quelque chose de l'underground, d'un seul coup devient la culture officielle. C'est-à-dire que Jack Lang arrive partout à la télé, dit « mais le rock, c'est formidable ». Le rock sort, disons, de sa marge pour se rapprocher du centre. Et donc de devenir quelque chose d'assez mainstream.
Mythomane a été réalisé par Jacques Naud. Et en fait, comme je venais de produire, moi, pour la première fois, un morceau d'Octobre, un de mes groupes, ça a convaincu Étienne et Virgin que j'étais capable de prendre le contrôle de l'enregistrement. Et donc j'ai réalisé d'abord Le Grand Sommeil, le maxi 45 tours, qui a été le premier un peu succès radio d'Étienne. Il est inclus d'ailleurs dans La Notée. Dans la foulée, on m'a donné les clés de l'album La Notée.
Là, c'est vraiment l'explosion d'Étienne Dao.
Benoît Cachin, écrivain.
Avec La Notée, notamment Weekend à Rome, il va vraiment installer un personnage, un personnage pop, électropop, l'album l'est clairement, un peu moins que le suivant, mais il commence vraiment à installer un style musical en France et ça va être le premier gros succès pour Étienne.
Et là, oui, c'est un gros succès radio et c'est le début, d'une certaine manière, de la Daomania qui démarre à ce moment-là. Ouais.
Ce qui me vient là tout de suite en premier, c'est Weekend à Rome.
Dominique Le Guerne, ex-directrice de marketing.
C'était un des énormes succès d'Étienne et il était super heureux que ça marche comme ça. Et c'était une période très gaie pour tout le monde. C'était une époque euphorique pour l'industrie du disque. Donc on était insouciants.
Weekend à Rome. Les 200 personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end, Italie, en bagnole de fortune, variette, mélo, à la radio, week-end, Italie, Paris est sous la pluie, bonheur, soupir. Chanson pour rire, chanson étale. Chanson étale pour une escale. Week-end à Rome. Afin de coincer la bulle dans ta bulle, poser mon cœur dans ton local. Escapade à deux, la pluie m'assomme, gris m'empoisonne, week-end à Rome, pour la douceur de vivre, et pour le fun, puisqu'on déjeune, week-end étal.
Traîner avec toi qui me
très étrange d'être connu vraiment en grande partie pour cette chanson, alors qu'elle n'a pas été, c'est pas la meilleure, et c'est celle qui reste. Et je crois qu'elle encapsule une espèce de vibration, de légèreté de cette période-là, en fait. Je crois que c'est surtout ça qui séduit, et qu'elle est entièrement légère, musique légère, texte léger. Alors que très souvent, j'ai tendance à faire des chansons avec des choses un peu contraires, texte grave et musique légère, et l'inverse. Il y a un petit twist comme ça, celle-là, elle est pas du tout, elle est absolument légère.
Avait pour beaucoup une passion pour le cinéma italien.
Franck Darcel, producteur de l'album La Notte, La Notte.
Et voilà, Weekend at Rome y fait référence. Et La Notte, c'était ce film d'Antonioni avec Jeanne Moreau. Mastroianni est aussi dans La Notte, dans La Dolce Vita évidemment. En tout cas, j'avais dit à Étienne, il y a une espèce de Dolce Vita différente qui s'appelle La Notte d'Antonioni, la Dolce Vita n'est pas un film très drôle, mais qui est encore plus sombre et plus prenant. Tu devrais regarder... La Notte, donc avec Jeanne Moreau. Et il avait adoré le film, et c'est à partir de la rencontre avec ce film d'Antonioni qu'il a gardé le titre, tout simplement, pour l'album. Et c'est vrai que le cinéma italien était un marqueur pour nous. Enfin, en tout cas, on était vraiment fans des cycles Pasolini, Antonioni, etc. Et puis les néo-réalistes à côté.
La pochette de Pierre et Gilles.
Nathalie Noënec, conseillère en images.
Pour La Notte, avec cette marinière et ce petit perroquet, c'est devenu presque un symbole, un logo, un signe très fort. Pour moi, c'était le parangon du chic à la française.
Je me reconnais complètement dans cette image, même si elle est sublimée. Et qu'elle est sublime. C'est vrai que c'est une image qui m'a précédé dans plein d'endroits, dans le monde entier. Hein. On me connaît avec cette image, plus qu'avec certaines de mes chansons. Donc je suis allé chez eux, j'avais une image très précise en tête. J'avais l'image d'une pochette d'album que ma mère avait, d'un album de Ricky Nelson, sur un fond orange avec un portrait vraiment plein pot. Et donc je leur ai dit, voilà, je veux ça. Donc ils ont exécuté l'idée, mais ça leur plaisait pas trop. Et ils m'ont dit, garde ton t-shirt de breton, là. Ils ont mis leur oiseau Bibic sur l'épaule, qui était un peu agité. Moi, j'aime pas les oiseaux. Ça m'angoisse un peu, donc d'avoir un Bibic sur l'épaule, j'étais pas du tout à l'aise, mais ça se voit pas. Hein. J'ai l'air totalement détendu, en pleine possession de mes moyens. Alors que l'oiseau essaie de me pincer les oreilles. Puis voilà, ils m'ont aspergé de l'eau sur le visage. Et puis voilà, c'est tout. 3 semaines après, j'ai vu l'image et j'étais galvanisé. C'était une image fantastique, très belle, tout de suite.
Le perroquet sur l'épaule, le t-shirt marin, tout ça a créé le personnage qui devient à ce moment-là...
Jean-Éric Perrin, écrivain.
C'est-à-dire quelque chose qu'on peut même difficilement imaginer aujourd'hui, parce qu'à l'époque, bon, il y avait moins de chaînes de médias, évidemment, il y avait moins de chaînes de télé, il n'y avait pas Internet et tout ça, mais la quelques possibilités d'ouverture de la télévision étaient entièrement concentrées sur lui, donc il était partout. D'ailleurs, il faisait une unanimité qui était assez rare, c'est-à-dire qu'il était à la fois... traité et mis en avant et poussé par ce qu'on appelait la presse spécialisée, qui était très importante à l'époque, donc les journaux de rock, Rock et Folk et Best, pour les deux principaux. Et puis aussi, on le retrouvait en poster dans Salut les copains, dans ce qu'on appelait la presse jeune, qui à l'époque avait un fort impact. Et donc il était à la fois pris au sérieux par les journaux dits sérieux sur la musique, et en même temps, sa gueule de poster boy était... dans les journaux pour les adolescentes qui punaisaient ses posters dans leur chambre. Donc il menait son chemin en étant considéré par les deux fractions qui à l'époque étaient très antagonistes quand même, faut bien le dire.
J'ai à la fois une double culture de la pop. J'ai beaucoup écouté de tubes quand j'étais petit, entre les yéyés, toute la pop anglaise. Ça c'est des tubes, c'est vraiment des formats très courts et des chansons avec des mélodies. Donc j'ai ça en moi, j'ai ça dans ma tête, partout dans mes cellules. Mais aussi beaucoup de musique plus underground, plus obscure. Et c'est un mélange de ça. Donc en fonction de l'œil qu'on peut avoir sur mon travail, ça peut devenir quelque chose de beaucoup plus populaire ou plus pointu, comme ce que j'avais fait avec Franck Darcel.
Dao, fan de pop.
Donc à l'issue de l'album La Notée, le label nous demande encore, donc Virgin nous demande à Étienne un nouveau single.
Arnold Turboost, musicien.
Et donc avec Étienne, on se met à chercher, et c'est à cette époque-là que nous composons Tombé pour la France. Et là, c'est un énorme succès. Énorme succès, en fait. C'est juste incroyable. Je me souviens, c'est sorti au début. On était partis en vacances et ça ne fonctionnait pas plus que ça, enfin un petit peu. Et puis je me souviens, Étienne appelait, et de jour en jour on lui disait « mais on a vendu un petit peu de disques », et puis plus ça allait, plus. Et quand on est rentré d'Ibiza, je crois que c'est une des premières chansons que j'ai entendues à la radio. Et là, je me suis dit « mais c'est pas possible, quoi ». C'est à partir de ce moment-là vraiment où je crois que c'est devenu, Étienne est devenu... une star, en fait. Il y avait plein de télé, il y avait plein de trucs.
Elle a tombé pour la France, c'est un tube, c'est quasiment le tube de l'été, avec son fameux riff de synthé. Mais bon, voilà, on a un artiste, effectivement, qui, lui, se revendique d'une histoire assez pointue, donc liée à une connaissance de la musique et du rock, etc., et qui, d'un seul coup, se retrouve la chanson que tout le monde chante dans les campings, quoi. Donc, c'est voilà, il y a une espèce de hiatus, mais encore une fois, lui, il va réussir à garder son cap, comme ça, mais là, il devient un chanteur extrêmement populaire.
Bibop, pieds nus sous la lune, sans foi, ni toi, ni fortune. Je passe mon temps à faire n'importe quoi sur les pistes. Noir de préférence, quand le démon de la danse me prend le corps, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Sur un jerk électronique.
Je suis arrivé à Paris, j'ai eu la bénédiction d'Élie et Jacquenot. Trois couples, Élie et Jacquenot, Françoise et Jacques, et Serge et Jane. C'est pas rien. C'est pas rien. Françoise Hardy d'abord, que j'ai rencontrée grâce à Jacquenot, et avec laquelle je suis devenu assez ami, assez rapidement en fait. Et puis de plus en plus lié, parce que vraiment je passais des Noëls chez eux, avec Thomas tout petit, vraiment, il y avait ce degré-là d'intimité, quoi, véritablement.
Je me rappelle surtout de la fois où, sachant que Jacques et moi, on était amateurs de bon Bordeaux, Étienne s'est fendu d'une bouteille de Linge-Bage. Le Linge-Bage, c'est un grand cru de Bordeaux qui a une très grande réputation, donc quand on a vu ça, on était assez éblouis. Et puis quand j'ai vu l'année, je me suis dit, ça va être imbuvable. Et en effet, il était imbuvable parce qu'il était beaucoup trop vieux. Et un vin qui est trop vieux, qui a certainement dû beaucoup voyager, etc., il n'est plus bon. C'était du vinaigre. Il a fini à l'évier. On n'en a pas bu du tout, à peine une gorgée. Il était rose dans le verre, vous savez, rose pour un Bordeaux. C'est le comble. Enfin, voilà. Mais...
Majeurs, mineurs, quels sont les albums qui restent et ceux qui s'évaporent? Ceux qui plaisent tout de suite et ceux qui plaisent plus tard? Après La Notée en 84, un mini-album l'année suivante, Tombé pour la France, pour déboucher sur Pop Satori en 86, enregistré à Londres avec l'ombre de William Orbit, futur producteur connu pour ses goûts électroniques. C'est lui qui donnera sa couleur à l'album de Madonna, Ray of Light. Pop Satori sort le 1er avril 86, Dao a 30 ans. Pop Satori s'installe au fil des semaines et connaît un succès grandissant, jusqu'à devenir l'une des pierres angulaires de sa discographie.
Tu nous l'envoies du début,
oui.
S'il te plaît.
Donc t'es en fabrication d'un disque, le prochain, 33.
Ouais, c'est ça. T'as un album qui s'appelle Pop Satori.
Ça veut dire quoi, Satori?
Satori, ça veut dire flash, illumination. Ça vient d'un bouquin de Kerouac qui s'appelle Satori à Paris.
Pop Satori 1986. Alors là, c'est un album que vous allez enregistrer à Londres. Enfin, c'est William Orbit. C'est grâce à lui que vous avez envie d'aller enregistrer à Londres. C'est pour travailler avec lui.
Oui, j'avais un ami qui m'avait offert un album de son groupe qui s'appelait Torch Song. Et j'ai. Je suis tombé dedans, quoi. Vraiment, je suis tombé amoureux de cet album. Et j'ai voulu les rencontrer. Donc à ce moment-là, j'avais envie de changer de son. Je venais de faire Tombé pour la France avec Franck Darcel, qui était très très bien produit, qui avait été un carton énorme, et j'avais envie de changer. Et donc je suis parti à Londres rencontrer William Orbit, qui a accepté de produire mon album.
Et en fait, ils n'avaient pas besoin de moi.
Arnold Sturboost.
Et moi j'étais venu avec Étienne, mais ils n'avaient pas besoin de moi.
Co-producteur de Pop Satori.
Non, we don't need it, you know. We put a special room for him, you know, he will play games. Et donc il m'avait mis des jeux vidéo et je devais jouer toute la journée. Alors une journée passe, je dis, je vais quand même pas rester là, j'ai pas que ça à faire, quoi. Ils veulent pas de moi, ils veulent pas de moi. Puis en fait, constamment, il réécoutait les quelques démos qu'on avait, il demandait à Étienne, mais ça, alors comment on fait? Alors Étienne dit, bah non, mais c'est Arnold qui a fait ça, je sais pas, et tout. Donc petit à petit, Étienne a poussé, je suis arrivé au bout de deux jours, je suis enfin arrivé au studio, quoi.
La conception de l'album connaît ensuite une suite difficile, puisque William Orbit s'en va, visiblement.
C'est ça, en fait, au début, il était extrêmement présent. Enfin, il a toujours été un peu présent, mais pour certaines raisons, il part, parce que je crois qu'il a une production qu'il avait promise. Je crois que c'était pour Sting ou quelque chose comme ça. Et en fait, nous nous retrouvons dans le studio sans William. Et donc, il nous délègue une autre personne, qui est Richard Conning, en fait, avec qui il travaillait, qui était un peu leur ingénieur du son. Et donc on se retrouve avec Richard et plus, mais en même temps on rencontre une personne qui est juste formidable et qui c'est lui en fait qui comprenait tout.
Dao, fan de pop.
Donc on a commencé à travailler jusqu'au jour où la maison de disques ne les payant pas, ils ont fait irruption dans ma chambre d'hôtel. Un matin en disant, voilà, on arrête tout et on garde les bandes.
Du jour au lendemain, on n'a plus de travail, on reste... on fait grève, on travaille plus parce que, je sais pas, il y avait une histoire de paiement, je crois que c'était ça, en fait, avec le label. Et donc, on n'a plus de travail et ils confisquent les bandes. Donc, mauvais truc.
Ça a été très difficile parce que j'étais avec Arnold à Londres, personne pour nous protéger, d'une certaine manière. Donc, on a pris les bandes sous le bras et on est rentré à Paris pour finir le disque avec l'ingénieur du son de William Orbit. C'est dommage, c'est une belle rencontre sur quelques titres, mais sur l'ensemble, c'est une rencontre ratée parce qu'on aurait pu faire tout l'album ensemble. Alors, Pop Satori est devenu l'album qu'il est, avec ses erreurs, parce que je me suis retrouvé parachuté Arnold Dessy producteur de l'album par obligation. Donc c'est un album où on a mis 25 ans de fantasmes dans ce disque, donc avec des erreurs, il y a trop d'arrangements, trop de reverb, trop de tout, mais toutes ces erreurs ont fait qu'il a un son, et que ce son là même si au départ quand j'ai fait écouter l'album à la maison de disques, ils ont été horrifiés. Enfin non, je me souviens de la première écoute avec eux. On est arrivé avec Arnold et Rico Conning, le troisième acolyte.
Et en fait, ils écoutent l'album. Et là, le label comprend absolument pas. Enfin, ils sont complètement. Mais c'est ça que vous avez fait pendant tant de temps. Enfin, genre, il n'y a pas grand. Enfin, on essaie de faire en sorte de faire voir qu'on est content, mais on n'est pas du tout content. Ce n'était pas du tout ça qu'on voulait.
On avait acheté plein de trucs pour boire et manger les petits. Grignoter des trucs, faire un truc un peu festif pour écouter l'album. Consternation générale. Et on les voyait partir les uns après les autres. Ils n'osaient même pas dire ce qu'ils pensaient, quoi. C'était vraiment très déstabilisant, mais moi je savais qu'on avait fait le disque qu'il fallait faire. Donc c'était triste, je me disais, ils vont peut-être pas nous accompagner, mais c'est le bon disque, on a fait le bon choix. Et donc on a continué à fêter de notre côté après, on est parti, on a fait une très belle fête tous les trois. Et...
cet épisode anglais qui nous a permis d'aller aussi loin, être détaché de la maison de disques qui nous a permis de faire exactement ce qu'on voulait, d'aller jusqu'au bout de nos arrangements, même si quelque part, quelquefois, il y a des erreurs. Moi, j'en ai mis plein sur les membres. D'ailleurs, je me souviens quand il est sorti, j'étais pas très très content d'un tas de choses. Enfin, je me disais que c'était pas suffisamment clair. Enfin, j'avais peut-être mis trop d'arrangements, que j'aurais peut-être pu simplifier. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de doutes, quoi. J'avais tellement donné, mais un plaisir, un vrai bonheur. Pour moi, cet album, c'est peut-être ça aussi, en fait, c'est le fait qu'on se soit vraiment éclaté à produire, à faire cet album aussi.
Et le disque est sorti, il a été bien accueilli par la presse spécialisée. Et puis après, petit à petit, on est parti en tournée, on faisait des salles de plus en plus grandes. Puis c'est devenu un phénomène, et puis c'est devenu un truc qui nous a dépassé. Tout le monde parlait de Dao Mania, j'étais devenu le chef de file de ceci, de cela. J'étais devenu le petit jeune homme à la mode de. En un claquement de doigts.
Je vous raconte cette anecdote assez rigolote.
Anne Clavry, ex-manager d'Étienne Daho.
J'étais parti en vacances en Tunisie, j'aime beaucoup la musique arabe. Je rentre, je lui laisse un message sur le répondeur en lui chantant un petit bout de musique arabe que j'avais appris. Il me rappelle le lendemain, t'es rentré, je suis en studio. Tiens, tu veux pas venir au studio ? Paf, je vais au studio. Il me dit, tu veux pas chanter au micro, là, ce que tu m'as chanté sur le répondeur hier? J'avais jamais mis le casque sur les oreilles. Et là, j'entends ma voix d'une façon géniale. Et me voilà, tout de Figarela, Mustapha, Riyarela, Figarela. Et puis d'autres petites mélopées. Il a mis une tonne d'effets dessus et c'est devenu l'intro de Duel au soleil.
Dans les dunes cachées,
dans un duel avec toi. Duel soleil contre moi. Duel soleil contre moi.
Je crois que le morceau
Flavien Berger
d'Étienne qui m'a le plus hanté, c'est Duel au soleil.
Musicien.
Et on est dans des sensations vraiment musicales, c'est-à-dire que la manière dont la mélodie évolue dans ce morceau est quelque chose que j'avais jamais vraiment entendu. Il m'a hanté pendant réellement une semaine où je me réveillais, j'y pensais, je m'endormais, j'y pensais. Et ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui là, je ne saurais plus vous le chanter. Il faudrait que je le réécoute pour retrouver la mélodie, savoir au moins comment bien placer ma voix. Alors qu'à un moment, disons que c'était en moi, quoi. Et ça m'a fait rarement ça avec un morceau de musique, quel qu'il soit. Du coup, j'ai des souvenirs liés à cette semaine où je me souviens de mes déplacements, je me souviens de ce que j'ai fait. Et je m'en souviendrai longtemps.
J'adore Duel au soleil.
Cricket Éluard, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Je trouve qu'il y a beaucoup de sensualité dans cette chanson. Parce que... il y a cette idée de combat qui fait partie de sa vie. Pour Étienne, la vie, c'est aussi une lutte. Hein. Ça l'est encore. Hein.
When I woke up today and you weren't there to play, then I wanted to be with you. When you showed me your eyes, whispered low in the skies, then I wanted to be with you. Inside me, I feel alone and unreal. And the way you kiss will always be a very special thing to me.
Il a une voix, mais tellement sexy.
Emmanuel Alt, ami d'Étienne Dao.
Vraiment, je trouve qu'il a une voix incroyable et extrêmement identifiable. Il a une voix merveilleuse, Étienne. Il n'a pas besoin vraiment de chanter, en fait. Il n'a pas besoin de se mettre à faire des trucs incroyables avec sa voix pour que sa voix est tellement efficace, même quand il parle. Il a une voix incroyable. J'adore sa voix.
Elle est épaisse et bleue.
Edith Fambuena, musicienne.
Voilà comment je la décris. Et puis, c'est quelqu'un de très tendre, donc il y a ça dans sa voix. Et déterminé. Voilà, il est ferme. Tendre et ferme.
Alors, épaisse, je comprends. Bleu.
Et bleu marine, pour moi. Je suis daltonienne, hein, donc il a une voix très profonde. Elle est large.
J'ai un de mes amis qui s'occupe du casting des voix à l'Opéra Comique.
Dominique Leguerne, ex-directrice de marketing.
Et il a une admiration absolument sans borne pour la voix d'Étienne, qu'il trouve extraordinaire.
C'est quelqu'un qui chante...
Marcello Giuliani.
Juste, très juste.
Bassiste.
Essayer de chanter du Dao, c'est très complexe. Après, il y a des notes tenues. Des fois, je le double sur des chansons, des choses comme ça. Ces mélodies sont pas évidentes. D'ailleurs, l'album de Jeanne Moreau, écoutez les mélodies, c'est d'une difficulté. Et il a fait des maquettes, donc on a enregistré chez lui et il nous a fait ce qu'on appelle des voix pilotes. Et les morceaux sont très complexes parce que ça change de tonalité beaucoup dans la même chanson. Il y a vraiment des accords en demi-ton. Et on était vraiment scotchés, comme on dit, par ces voix témoins. On lui a dit, écoute Étienne, mais tes voix témoins sont incroyables. Je crois que c'est les voix témoins qu'il a gardées. Réécouter l'album, c'est vraiment pas facile à chanter.
Ah, il a un accent.
Jane Birkin.
Il a un accent que j'aime beaucoup. En l'écoutant beaucoup hier et aujourd'hui, je me rendais compte que j'aurais pu l'imiter. C'est pas nasal, mais il y a un accent. Et bon, on le devine tout de suite. On peut pas vraiment se tromper. Heureusement. Avec sa voix, ça va avec tout le reste. C'est pas une voix à part. On voit tout de suite le tout. la tête, les yeux, les hanches, tout.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis, de l'autre côté de ma vie, le paradis acquis.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop, une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer, attaché de production Cécile Claire, narration Christelle André.
C'était un grand jeudi, tous les jours paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers de passants, sans rêve, qui ne savent être heureux, comme si j'étais assis là-haut au paradis, de l'autre côté de la rue, mon paradis perdu.
Prochain épisode, nous irons à Londres pour assister à la naissance de Blitz, le dernier album d'Étienne Dao.
Encore un disque qui a été un monumental affaire, un travail de titan, ça s'entend. Je suis encore dans l'émotion de ce disque parce qu'en fait il est tellement récent, je viens de le terminer, et c'est comme un enfant encore qu'on regarde faire ses premiers pas. Donc tant qu'il n'a pas vécu sur scène, il reste encore sa petite chose quoi. Il n'y a pas encore eu le moment de la séparation avec le disque. C'est un album que j'ai écrit et produit avec Fabien Waltman, qui est un garçon avec lequel j'avais travaillé sur l'album Eden. Et les retrouvailles ont été magiques.
Étienne avait envie de justement peut-être casser le côté très pop du précédent album.
Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Étienne Dao.
En proposant quelque chose de vraiment différent. Et je pense que toutes ces références psychédéliques, le poids des guitares, est quelque chose qui était ce qu'il avait envie de faire.
Un format de chanson un peu étiré, avec des jeux sur les sons, sur les structures.
Jean-Éric Perrin.
Sur la patte musicale.
Journaliste et écrivain.
Plus qu'un côté très pop, 3 minutes, couplet, refrain, quelque chose de plus sucré, quoi, plus bubblegum. Donc là, on le retrouve, ce côté progressif, au sens tête chercheuse, au sens avant-garde, d'aller chercher des sons comme ça, d'étirer les sons, de les malaxer, de les triturer dans tous les sens, quitte à ce qu'ils soient même désagréables à l'oreille.
Dans ton vortex,
tous les journalistes qui l'ont interrogé pendant la promotion de l'album.
Tristan Béra.
Lui ont parlé de la pochette et...
Commissaire d'exposition.
Bah, je peux juste dire que c'est un mélange de Kenneth Anger, de l'enfer de Clouseau avec le ray de lumière verte sur le visage, de Marlon Brando dans l'équipée sauvage... Il a été inspiré par Lou Doyon pour la casquette qui porte un peu de travers, la casquette de cuir. Bah, y a un truc SM évident, il y a un truc qui fait penser à Scorpio Rising. Moi, je trouve qu'elle va bien avec le titre de l'album.
C'était la chambre du serpent, sifflant le chant des résistants, des infidèles, le miel et le goût entêtant du tabac gris béni et de la poudre blanche artificielle, orgie noble mélancolie.
Des infidèles, un titre de Blitz. Retour sur cet album dans le prochain épisode.
Dans morceaux, je n'ai plus les jours de vous.
j'ai pas les ragots.